RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à tous, le week-end de Champions Cup vient de nous délivrer le dernier carré de la compétition. Ils ne sont plus que 4, Toulouse, La Rochelle, Exeter et le Leinster, pour savoir qui remportera cette Champions Cup nouvelle version, même si les provinces sud-africaines nouvelles venues n'ont pas été plus loin que les quarts de finale. Toutes les équipes encore en lice ont déjà remporté un trophée européen, mais il y en a une qui fait figure d'épouvantail depuis longtemps, les Irlandais du Leinster, déjà promis à la victoire l'an passé, mais terrassés à la dernière seconde en finale par le Stade Rochelais, sont les grands favoris, d'autant qu'ils jouent tous leurs matchs de phase finale à la Viva Stadium de Dublin, qui sera le théâtre de la grande finale le 20 mai prochain. Les Leinstermen sont-ils battables? Oui, vous diront évidemment les supporters rochelais, mais dans le sillage de l'Irlande, vainqueur du Grand Chelem et dont la majeure partie des joueurs évolue au Leinster, c'est parfois terrifiant et inéluctable quand la machine se met en route. Les Toulousains ont-ils le profil pour aller créer la sensation dans 3 semaines? Ont-ils plus des arguments cette année, la fraîcheur notamment, pour prendre leur revanche de l'an passé, mais aussi, vous le verrez, des années précédentes? Ou doit-on attendre une nouvelle finale entre les Irlandais et les Rochelais pour savoir si on peut encore faire tomber les hommes de Leo Cullen? C'est ce qu'on va tenter de vous expliquer, décrypter, pronostiquer aujourd'hui. Et pour cela, on a convié un agent double irlandais. Il a joué au Leinster, il a gagné la Coupe d'Europe en 2009 face aux Anglais de Leicester, mais il a aussi entraîné en France à Grenoble. L'ancien talonneur Bernard Jackman est l'invité d'Entre les poteaux aujourd'hui. Pour y voir plus clair avec lui, la bande des poteaux est comme toujours composée du consultant vedette Denis Charvet. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Bon week-end de rugby.
J'ai tout vu, on s'est régalé. Et puis quand les Français gagnent, on est encore plus heureux.
Évidemment, avec toi pour le Midi Olympique, nous avons Léo Faure, notre Jonathan Sexton à nous. Salut Léo.
Salut. Sexton, c'est pour les commotions ou c'est pour la taille?
C'est pour la taille, c'est un peu pour le profil.
C'est la carrière aussi, peut-être.
Mais bon, si tu vas sur ce terrain, peut-être, faut y réfléchir. Et aussi celui qui a vécu les cauchemars du Racing contre le Leinster cette année, Julien Richard. Bonjour Julien.
Salut les gars.
Salut Julien.
Est-ce que tu te réveilles encore la nuit en hurlant James Love, James
non.
Love
non, 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 c'est Wilfried Templier. C'est autre chose, c'est un autre délire.
Ah bon. Bienvenue parmi les poteaux, mon cher Julien, content de t'avoir avec nous. Allez, accrochez-vous parce qu'on s'approche du verdict, messieurs. C'est la fin du match, victoire dans cette première demi-finale du Leinster, démonstration de force de la part des Irlandais, 40-17. Le Stade Toulousain s'incline et perd son titre de champion d'Europe.
Harry Bird avec Van der Fier, personne pour l'arrêter. Et la punition qui continue avec ce 6e essai. Et cette défaite est cruelle, je vous parlais d'un 45-16 en moyenne l'année passée par le Leinster en Champions Cup. Ça fera 42-10 aujourd'hui avec cette dernière transformation. Il n'y a pas eu photo, le finaliste de la Champions Cup de l'année passée était largement plus fort, cette équipe bis et d'Irlande.
Et 15 joueurs qui viennent de faire leur apparition sur la pelouse ici de la Viva Stadium côté Leinster, eh bien ils sont tous internationaux irlandais, sauf un, le pilier droit, Michael Alalatoa, qui est international samoan. Désolé. Les Irlandais qui poussent pour aller inscrire un 6e essai alors qu'ils mènent 29-10, qu'ils ont dépassé le temps additionnel, mais je peux vous dire qu'on joue tous les ballons et qu'on va aller filer peut-être d'ailleurs avec Ringrose. Voilà le 6e essai pour terminer en beauté.
Attention, Ntamak qui perce, qui fait la passe, qui va marquer tout seul cet essai à l'issue de deux fins de passe. Il va se mêler à la fête, Romain Ntamak, et marquer, inscrire le 7e essai toulousain. La Marseillaise d'Ernest Vallon et Ramos qui passe cette transformation.
Et
c'est terminé, victoire du Stade toulousain. Et il se qualifie pour les demi-finales. On aura le Leinster, les Irlandais, qui accueilleront le Stade toulousain. Revanche de la demi-finale de l'année dernière. Ah, cette petite musique, c'est la blague de Coach Courbis, messieurs, hein. Une charcuterie. Voilà, c'était le jeu de mots de Roland Courbis ce week-end. Une charcuterie, voilà. Les résultats des quarts de finale de Champions Cup, le Leinster écrase Leicester 55-24. Toulouse en fait de même face aux Sharks 54-20. Exeter bat les Stormers 42-17. Et La Rochelle se débarrasse des Saracens 24-10. Le programme des demi-finales, samedi 29 avril à 16h à la Viva Stadium de Dublin. Leinster-Toulouse, dimanche 30 avril à 16h également au Matmut Stadium de Bordeaux, La Rochelle, Exeter. Messieurs, d'abord, avant d'accueillir Bernard Jackman, que retenez-vous de ce week-end? Denis, qu'est-ce qui t'a frappé, marqué? Qu'est-ce que tu retiens?
Ouais, je retiens que les Français, mentalement, ils étaient présents. Enfin, les deux clubs français, on va dire Toulouse ou La Rochelle. Et ils m'ont impressionné, le collectif des deux équipes m'ont impressionné différemment parce que Toulouse n'a pas le même style de jeu que La Rochelle. Mais au bout du compte, cette force mentale, oui, cette maîtrise aussi, que ce soit rochelaise ou toulousaine. Voilà, après, on peut être, comment dire, critique par rapport à l'organisation quand on voit que les Sharks ont craqué à la 20 dernières minutes. On peut en reparler, mais voilà.
C'est on en reparlera à la fin, ouais, voilà, des Sud-Af, ouais. C'est sûr, hein, c'est sûr, faut pas l'oublier, ça.
Faut pas l'oublier.
Les voyages des Sud-Africains. Léo?
Ouais, bah justement, deux choses. La première, c'est que bah, les Sud-Af, quand même, non seulement ils perdent leur deux quarts, mais ils prennent 100 points en deux quarts, quoi. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Peut-être sur leur niveau, aussi sur l'organisation, c'est compliqué ce qu'on leur impose et c'est difficile pour eux de rivaliser. Et la deuxième chose, c'est quand même le match Toulouse-Sharks, au-delà du résultat et des voyages des Sharks, c'est tout ce qu'on veut en termes de spectacle. C'était quand même quelque chose d'assez
fantastique,
grandiose,
on s'est régalé. Ouais,
voilà, on peut raconter ce qu'on veut quand t'arrives la Coupe d'Europe en termes de spectacle, de volume de jeu, d'intention de jeu. C'est quand même des choses assez exceptionnelles qui nous sont proposées, quoi.
Julien,
moi, je retiens que c'était très sympa de voir quand même les clubs sud-africains et que la première mi-temps notamment de Toulouse Sharks c'était quand même
du très haut niveau,
exceptionnel.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais bon, maintenant on peut repasser à la Coupe d'Europe, c'est bon.
Et même les 20 minutes qui suivent, hein, parce qu'à l'heure de jeu, quand ils ont été refusés les Sharks.
Mais tu as un fait de jeu qui est terrible pour eux, c'est
refusé.
Non, pas celui-là. Alors, moi, le fait de jeu, il est plutôt à 26-20, il y a coup d'envoi des Toulousains et les Bulls, au lieu de taper en touche une pénalité qu'ils ont, il la joue à la main. Je pense que l'arbitre aurait dû revenir à remettre pénalité parce que le Toulousain n'était pas à 10 mètres, mais sur le coup, il y a un turnover, ils prennent un essai. Ils passent de 26-20 à 33-20, et je pense que le match, il est fini.
Ouais, il y a un tournoi. Mais donc, bah, jusque-là, quand même, on faisait pas les malins. Hein,
ah non, mais jusque-là, moi, j'ai trouvé les Sharks très bons, hein, vraiment très bonne équipe des Sharks. Et surtout, derrière, ils ont une qualité de vitesse impressionnante. Ouais. Je trouvais ce disque que je découvrais qui était extraordinaire. Le 9 aussi. Le 9 qui n'est pas titulaire. Le 9 qui n'était pas titulaire.
Ouais, c'est Hendrix, normalement.
Hendrix qui était titulaire. Et puis derrière, bon, l'arrière, non, ils ont des très beaux joueurs. Hein.
Bon, vous venez officiellement de me démonter le fil conducteur de ce podcast. On avait prévu de parler des Sud-Af à la fin.
Mais on en reparlera. Faut que je charge. J'ai pas tout dit, hein, donc on en reparlera.
Jamais vous auriez fait ça, Christophe Cessieux. Bref, on va poser la même question à notre invité entre les poteaux, Bernard Jackman. Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour, Bernard.
Oui, bonjour, les gars. Merci pour cette invitation à parler
en
avec le vrai expert français.
Merci, Bernard.
Voilà, ça va changer.
N'exagère pas non plus.
Alors, pour te présenter, Bernard, des débuts de joueur au Connacht, un passage à Sale un challenge européen remporté avec Sale, puis à nouveau le Connacht et 5 années au Leinster entre 2005 et 2010, une Coupe d'Europe en 2009 pour toi, 9 sélections d'équipe d'Irlande et puis une seconde entraîneur et un passage à Grenoble pendant 6 ans qui fait que tu parles un sublime français avant de finir aux Dragons au Pays de Galles. Aujourd'hui tu travailles dans les médias, hein, avec RT, la chaîne sport irlandaise, ou des billets dans le Sunday Independent. Donc bienvenue, c'est vrai que voilà, tu as l'habitude de faire que certains podcasts, certaines émissions avec nos amis anglais ou irlandais, et voilà, pour une fois tu fais une entorse à ça, tu es là avec les Français. C'est ce qu'on voulait te poser comme question, Bernard, ce que tu retiens aussi du week-end, ce qui t'a le plus marqué dans ces quarts de finale de Champions Cup.
Ah, je crois que c'était la démonstration de force de Leinster, sans Josh van der Vlier, sans Johnny Sexton, un moment de difficulté autour de la cinquième minute, carton jaune pour Caelan Doris. Et le score, c'était 17-10. Et Leinster Tigers était dans le match. Et Leinster augmentait leur niveau, augmentait la pression et gagnait le match facilement à la fin. Et donc, on sait que c'est un effectif avec très profond. Mais à ce moment, maintenant, on a 4 équipes. Qui reste dans la compétition. Les 4 équipes ont déjà gagné au minimum en Coupe d'Europe, mais la forme de cette équipe d'Irlandais, la capacité à vraiment trouver les solutions, c'est impressionnant.
Alors, juste notre question aujourd'hui dans ce podcast, messieurs, c'est: le Leinster est-il imbattable? Déjà, écoutez ce que pense le capitaine du Stade Toulousain, Antoine Dupont.
Ouais, bah ils sont cliniques, ils sont chirurgicaux. En plus, ils ont cette stratégie de toujours vouloir marquer des essais plutôt que des pénalités. C'est ça qui fait aussi qu'ils arrivent à avoir des scores aussi grands. Mais oui, bien sûr, c'est sûrement le favori de cette compétition qui va avoir en plus la chance de recevoir ce match. Donc, on sait que c'est un immense défi pour nous. On a 3 semaines pour s'y préparer. Reste qu'à compter sur nous maintenant.
Bernard, comment résumer les forces de cette équipe de Leinster? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ses forces?
the capacity, ils ont très sec, capacity aerobique et anaerobique énorme. Je me souviens le match France-Irlande à la Viva pendant les Six Nations. Et le ball and play, Tom, ouais. c'était le record. C'était top.
46
et
minutes, et, non?
Exactement. Et Leinster, vraiment, c'est l'équipe d'Irlande. Donc, ils ont le joueur qui a capacité de jouer jusqu'au bout. Et je crois que Antoine Dupont, Hugo Moller, Fabien Galthié, ils ont appris beaucoup de matchs Six Nations, plus le match. Et le match l'année dernière en Coupe d'Europe aussi à Aviva. Et je crois que Toulouse, le Stade Toulousain va être beaucoup plus intelligent en termes de leur style de jeu pour vraiment essayer jouer au minimum de temps de jeu, vraiment limiter le ballon sur le terrain. Parce que si tu laisses le ballon sur le terrain, je crois que Leinster va gagner contre chaque équipe. Mais ils n'ont pas imbattable. Il est pas faible aussi. Et je crois que La Rochelle et Toulouse, et particulièrement, ils ont la capacité à trouver sa point faible.
Il y a quand même une donnée à prendre en compte qu'on n'avait pas l'an passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 3 semaines, Toulouse va arriver avec son meilleur effectif et au meilleur de sa forme. Donc, si on reprend l'exemple d'Irlande de France cette année, on sait que les Français avaient un jour de moins et qu'ils sont arrivés un peu rincés à ce match. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'écart s'est réduit énormément. Alors après, évidemment, la maîtrise irlandaise, ce jeu usant, parce que c'est un jeu usant, est-ce qu'on va être capable de supporter pendant 80 minutes ? C'est la seule interrogation. Après, il y a la discipline. Il y a la discipline aussi, de ne pas faire de faute, de ne pas leur donner l'occasion de scorer.
Bon, est-ce que tu leur vois des faiblesses, Denis, au Leinster ?
Mais les faiblesses, je crois que la faiblesse, c'est celle que tu imposes à l'adversaire. C'était prêt au combat. Maintenant, regarde l'Angleterre, quand ils sont allés défier l'Irlande, ils étaient prêts au combat. Ils ont failli les gagner malgré qu'ils étaient à 14 contre 15. Donc c'est un bon exemple de voir ce match de l'Angleterre en Irlande où ils ont rivalisé dans le combat. En fait, ils n'ont rien lâché. Ils étaient toujours les premiers. Je pense que Toulouse a la capacité de mettre en place ce jeu-là.
On va essayer de développer ce côté stratégique. Léo, Bernard dit quelque chose qui m'a fait penser, on a discuté un peu avant ce podcast, là, le ball in play, de laisser le ballon dans le terrain. Avant de parler stratégie, et Julien va nous présenter aussi les forces du Leinster, ce sera une question pour les Toulousains, ça.
Ouais, le problème, c'est qu'ils imposent quand même ce bras de fer et qu'effectivement, ils vous finissent par vous faire exploser. Et la question de laisser le ballon sur le terrain ou de le sortir pour casser un peu le rythme, alors oui, c'est s'exposer à des lancements de jeu où ils sont très forts aussi, sur les lancements de jeu en première main. Mais à un moment, de toute façon, ils sont forts partout. Il va falloir assumer un risque. Et cette idée qu'ils imposent un bras de fer jusqu'à vous faire rompre, c'est peut-être une bonne solution. Au lieu de dire ok, on va faire face, on va assumer le bras de fer, de dire on va l'éviter, le bras de fer, en fait on va chercher à casser un peu le rythme, à ne pas les faire rentrer dans cette mécanique où ils finissent par vous broyer, quoi, de pas les laisser s'installer là-dedans, parce que là ils sont imbattables. La Rochelle avait montré quelques pistes quand même en finale là-dessus, et assez de pistes pour les battre d'ailleurs.
On va revenir sur le côté stratégique. Déjà cette saison, il y a des chiffres fous concernant le Leinster. Julien, est-ce que tu... Vas-y, fais-nous tourner la tête.
Ouais, on va tous ensemble passer sous le rouleau compresseur irlandais. Ils sont invaincus tout simplement cette saison, toute compétition confondue. Ça représente 22 matchs joués. Le seul accro, si on peut parler d'accro, c'est un match nul à domicile en URC, en United Rugby Championship. C'est 22-22 face aux Stormers. Mais même là, ils avaient quand même réussi à marquer le point de bonus offensif. Et d'ailleurs, sur 16 de leurs 22 matchs cette saison, ils ont pris un bonus offensif. En fait, le Leinster marque au fer rouge ses adversaires. Je vais essayer de vous noyer un peu dans tous ces chiffres, mais c'est vrai que c'est assez dingue. En phase de poule de Champions Cup, 184 points marqués en 4 matchs, 46 points de moyenne, donc 34 points seulement encaissés sur ces 4 matchs. 7 essais de moyenne par match. Les phases finales, il y a eu ce 30-15 contre l'Ulster avec 3 essais seulement, entre guillemets. Mais ça reste très impressionnant.
Ils avaient
très,
encore un peu la gueule de bois du Grand Chelem.
Exactement. Après, derrière, il y a eu le 55-24 contre l'Ulster. Donc voilà. Avec des marqueurs qui ne trompent pas finalement en Coupe d'Europe, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais, 38, qui a marqué le plus de points, 269, qui a joué le plus de ballons à la main, qui a franchi le plus, 55 franchissements, c'est 4 de plus que le Stade Toulousain, et qui a battu le plus de défenseurs, 143, c'est 10 de plus, là aussi, que le Stade Toulousain.
Julien, on dit souvent, on le répète, le Leinster est quasiment l'équipe d'Irlande, mais les noms qui composent cette équipe, ça en dit beaucoup aussi. Ça va encore faire tourner la tête, vas-y.
Oui, bon, on va prendre juste la compo, par exemple, de ce week-end face à Leinster, et encore, il manquait du monde, mais 13 des 15 titulaires au coup d'envoi étaient présents en équipe d'Irlande pour le Grand Chelem, ont participé au Grand Chelem. Je vous donne les noms à la volée, mais Hugo Keenan, Jimmy O'Brien, Gary Ringrose, Robbie Henshaw qui avait été appelé pour le dernier match contre l'Angleterre, James Lowe, Ross Byrne, Andrew Porter, Dan Sheenan, Tag Furlong, James Ryan, Ryan Baird, Cillian Doris. Il y a juste Jack Conan et Ross Moloney, mais qui ne sont pas très loin. Et
Van der Flier, non ?
Van der Flier était blessé, était pas là. Blessé. Donc voilà, et Sexton. Ouais. Et Sexton
il va jouer Van der Flier en demi-finale, on ne sait pas.
On ne sait pas encore. Et puis il y avait sur le banc Ross Byrne et Cillian Healy hein, aussi. Voilà. Et puis 20, avant le début du tournoi, sur la première liste, 20 des 37 joueurs appelés en équipe d'Irlande étaient des joueurs du Leinster.
Bernard, c'est le laboratoire de l'équipe d'Irlande. Est-ce que c'est une stratégie établie de la fédération ?
Écoute, c'est la ville avec le plus de population. C'est la province avec le plus d'écoles privées. Et dans les écoles privées, on a vraiment le centre de formation qui commence à 12 ans. Et avec le bon entraîneur, avec le préparateur physique, avec le préparateur mental, etc. Donc, Leinster, c'est pas Leinster qui gère ça, c'est l'école privée, parce que les parents demandent ou insistent que le programme de rugby, c'est le très haut niveau. Donc, il y a beaucoup de choses en faveur de Leinster. Après, c'est parce qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent pour Irlande. Non, bouger, c'est plus que les autres. Donc, en Irlande, il n'y a pas un salary cap. Donc, Leinster, c'est le rugby, c'est le seul sport professionnel à Dublin. Donc, ils ont la capacité à avoir le très bon partenariat, beaucoup de supporters, beaucoup de membership, etc. Donc, il y a beaucoup de choses en faveur de Leinster. Après, on a le bon entraîneur aussi et on a une culture, on a déjà gagné 4 Coupes d'Europe, mais il y a beaucoup de frustration en Irlande et beaucoup de frustration en Leinster que pendant 10 ans, on a seulement gagné un titre en 2018. Et yeah, tout le monde dit, oh, Leinster, ils ont superbe, le stat, c'est incroyable, mais on n'a pas de champion. C'est La Rochelle qui est champion.
Je suis d'accord avec toi, mais tu as quand même une génération de joueurs exceptionnels.
Oui, non, on a une génération exceptionnelle, mais c'est le temps pour à gagner le champion d'Europe, le titre.
Tu l'as gagné souvent.
Oui, il le dit, Denis, depuis 2011. C'est qu'une fois en 2018,
oui,
en fait.
Oui.
Ils sont souvent là et finalement, ils disent que ça ne marque pas assez, Denis. C'est ce qu'ils disent.
Là où je te rejoins, Bernard, c'est que c'est vrai que par rapport à la qualité aujourd'hui, au talent des joueurs qui composent cette équipe, tu devrais le gagner tous les deux ans.
Oui, parce qu'il y a eu les Saracens, parce qu'il y a eu
La Rochelle. T'as eu Toulon pendant 3
ans. Oui, ils tombent sur le cycle des Saracens aussi. Mais j'avais une question pour Bernard, parce qu'on parle très peu, on parle des points faibles et personne parle de l'absence de Sexton. Et c'est quelque chose qui m'étonne.
Je sais pas si c'est un point faible.
Justement, c'est la question vu d'Irlande, parce que Ross Byrne est un très très bon joueur. Mais dans un match où on peut penser que les Toulousains vont les matcher plus que Leicester l'a fait, plus dans un match où si on rentre dans un scénario de match serré et tendu, c'est un vrai point faible ça, l'absence de Sexton ou pas pour toi?
Écoute, je crois pour Irlande, oui. Mais pour Leinster, je crois qu'il est capable à gérer cette équipe. Mais il était sur le terrain pendant les dernières 20 minutes contre La Rochelle à Marseille l'année dernière. Il a joué beaucoup finales pour Leinster et gagné avec Leinster.
Tu parles de Ross Byrne.
Ross Byrne, oui. Donc, Ross Byrne a joué beaucoup finales pour Leinster pendant le URC. Mais la prochaine tâche pour lui, c'est vraiment gérer et gagner un titre d'Europe avec cette équipe. Mais je crois qu'il y a énormément de qualité autour de lui pour Leinster. Donc, tu as Josh Van der Flier, Robbie Henshaw, Gary Ringrose. Et je crois que ça va aller pour Leinster. Mais si on joue la quatre finale, la Coupe du Monde contre France ou Nouvelle-Zélande, je crois sans Sexton, ce sera difficile. Mais à le nouveau provincial, à le nouveau club, je crois Ross Byrne, il est prêt à faire un bon job, mais je ne sais pas pour Irlande.
On parlait des faiblesses qui sont dures à déceler. Hein. On sait que les Rochelais sont capables de matcher avec eux sur les datas. Moi, j'ai entendu parler de ça. Que c'est ce qu'ils avaient tenté de faire la dernière finale, hein, de résister en fait, de coller au score. Denis, c'est peut-être une des leçons de la dernière finale aussi. Les Rochelais à un moment étaient peut-être à moins 10 à un moment dans la finale,
Les Rochelais, ils ont gagné parce qu'ils ont été très résilients, ils ont cru jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'il faut avoir de grosses croyances quand t'as cette équipe, que tu es malmené, que tu es mené au score. C'est vrai que c'est incroyable. Ça relève de l'exploit énorme de l'an passé. C'est vrai qu'ils gagnent sur la cloche, on l'a bien vu. Mais, je crois quand même qu'il faut avoir une détermination, une exigence à ce niveau-là qui dépasse tout entendement. Voilà, c'est pas dû au hasard, et en même temps, La Rochelle a gagné parce que c'est pas parce qu'ils le méritaient pas, mais c'est parce qu'ils, ce jour-là, ils étaient présents dans le combat, dans tout, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça relève de l'exploit de gagner au Leinster, surtout à la Viva Stadium.
Ouais. Bernard, quelles leçons les Leinstermen ont retenu de la dernière défaite face à La Rochelle en finale? Est-ce qu'il y a eu un bilan après ce match, quelque chose qui en est sorti?
Oui, et pas que le match contre La Rochelle. La semaine après, on a perdu contre les Bulls. Donc, on a fini la saison dernière sans titre. Donc, ils ont fait un grand bilan sur tout le secteur. Et en fait, ils ont mis beaucoup focus maintenant sur la conquête, particulièrement le ballon porté, les deux côtés, ballon porté pour eux, ballon porté pour l'équipe adverse. Ouais. Parce que quand tu regardes le match contre La Rochelle, dans le moment clé, La Rochelle est capable à gagner un penalty avec un ballon porté ou avance un peu et faire le bon lancement. Oui. Donc, ils ont recruté une deuxième ligne sud-africaine, Jason Jenkins, qui est très costaud. Il est le même profil que Paul Willemsen, mais pas la même qualité. Mais donc, il est vraiment une deuxième ligne fermée pour les choses conquête, physique, etc. Et lui, il est remplaçant. Il était remplaçant contre Leicester, mais je crois que peut-être contre Toulouse ou contre La Rochelle, si on joue en finale, si on gagne contre Stade Toulousain, peut-être il va démarrer le match parce que...
À la place de Maloney.
Oui,
qui est costaud aussi déjà.
Exactement. Il est plus costaud que Maloney et on a l'impression que on a manqué un peu ça contre La Rochelle, mais pas que l'année dernière, la demi-finale la saison avant. On a perdu aussi, donc parce que Skelton il a fait du soccer match, Antonio, on a peur que contre l'équipe avec le joueur massif, peut-être on va être en difficulté. Mais le problème pour nous c'est tu jouais pas comme cette équipe, ce type de profil d'équipe jusqu'à la demi-finale ou finale, parce que le groupe de qualification c'était trop facile, le URC. C'est trop facile pour Leinster, mais tu dois jouer contre la meilleure équipe maintenant et ça, c'est le challenge pour Leinster.
Alors Toulouse, en parlant de la demi-finale, messieurs, reste sur 3 éliminations de suite face au Leinster, hein, à ce stade de la compétition en 2011. Alors ça ne concernait pas ce groupe-là, mais 2019 et 2022. Donc 2 hein, pour ce groupe. L'an passé, 40-17 pour le Leinster, 4 essais à 2. Toulouse va peut-être devoir changer de stratégie. Écoutez en tout cas ce que dit le manager Hugo Mola après la qualification samedi face aux Sharks.
Il va falloir quand même trouver une solution dans les choix stratégiques aussi sur lesquels je pense qu'on s'est un peu planté les années précédentes. Donc il va falloir faire preuve de malice, de discipline, de maîtrise et puis se préparer au mieux pour essayer au moins de faire une nouvelle finale de Coupe d'Europe. Donc battable. Toute équipe est battable, mais ceux-là, ils sont quand même redoutables. Mais l'an dernier, en 20 minutes, les 20 minutes avaient été assez fatales sur notre déplacement et notre capacité à défendre. Après, quand tu cours au score contre eux, j'ai presque envie de te dire que tu reviens rarement. Quand l'équipe de France a battu l'Irlande, les peu de fois où ils les ont battus, c'est quand ils ont pris le score et en tout cas pas chargé sur ces 20 premières minutes. Donc on sait qu'il y aura cette guerre de quart-temps plus que de mi-temps. Ce qui a été le cas d'ailleurs, hein, parce que les offloads ont été où nous aujourd'hui. On a commencé à jouer debout au bout de la 20e parce qu'on ne voulait pas non plus trop s'exposer au contre des Sharks. Et je pense que typiquement, le match du Leinster, est en ce sens, il faudra faire attention à ces 20 premières minutes sur lesquelles on a vraiment laissé des plumes lors de notre dernière demi-finale.
Alors, pas s'exposer, si, Denis. Tu penses que Toulouse, avec ce qu'il dit, va réduire la voilure ?
Mais tu écoutes son analyse, il suffit qu'il revoie le match de La Rochelle l'an passé. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont été menés au score, mais ils ont réussi à renverser la vapeur. Et que, comme il le dit très justement, quand tu es mené au score face à ce rouleau compresseur, c'est extrêmement difficile de revenir. Mais je crois que c'est ce qui est compliqué face à une équipe de Leinster quand elle est dans une forme comme elle a aujourd'hui, elle est usante, quoi. C'est-à-dire qu'elle t'use. Il faut garder la forme et je crois vraiment que les Toulousains sont en forme pour les contrer physiquement.
Léo, tu penses qu'il faut pas trop jouer face au Leinster?
Ouais,
parce qu'on avait reproché un peu à l'équipe de France face à l'Irlande, hein, d'avoir trop joué de son corps, voilà. Surtout.
Déjà sur l'analyse, effectivement, il revient sur l'équipe de France, on les a battus Pastanem et l'an dernier dans le tournoi, et on avait fait une énorme entame de match en termes de réalisme, et heureusement d'ailleurs, parce que derrière ça avait été compliqué de tenir jusqu'au bout. Mais le problème, il y a toujours deux philosophies, c'est que soit on se dit on va battre l'adversaire sur ses points forts, soit on dit on les évite. Et Leinster, sur ce point fort, qui est vraiment la capacité à répéter les tâches, à imposer une grosse, grosse intensité, ils font tout à 120%, ils font rien à moitié, donc, et à tenir le bras de fer longtemps, bah, ils paraissent quand même difficiles à battre, donc il vaut peut-être mieux les éviter sur leur point fort, effectivement, et eux dire, non, sur leur point fort, ils sont pas battables, on va les amener dans un autre rugby, donc quelque chose peut-être d'un peu plus lent, un peu moins rythmé, effectivement.
Bernard, il va pas nous donner les clés quand même. L'Irlandais va pas donner les clés aux Français, mais il faut pas trop jouer, pas trop s'exposer contre le Leinster.
Bah, je crois que cette équipe de Stade Toulousain, ils ont la qualité à jouer au mât.
Oui, c'est son identité.
Mais le problème, c'est Leinster, ils sont très disciplinés, très stricts sur leur plan de jeu, à jeu territoire. Donc, il faut que tu restes patient. Et reste dans le kicking game, reste dans le kicking tennis jusqu'à fin, parce que si tu prends trop le risque dans ton camp, tu vas faire la faute, Leinster va taper en touche.
Oui, mais...
Exactement. Donc c'est ça, c'est juste reste très patient. Et c'est difficile devant 50 000 personnes, demi-finale de Coupe d'Europe, etc. Mais ça, c'est la clé. Et c'est difficile à faire, mais je crois avec la qualité Toulouse a, l'expérience ils ont, les leçons ils ont pris, même si c'est avec l'équipe de France ou avec l'équipe de Stade Toulousain l'année dernière, il faut qu'ils vont arriver avec un plan de jeu très bien en place, et ils ont la qualité à gagner, ils ont une super équipe.
Bernard, j'ai une question pour toi, parce qu'en fait, quand on l'a vu contre l'Irlande dans le match de destination, en fait, ce qui n'a pas marché véritablement par rapport à la stratégie, c'est qu'on n'a pas utilisé le jeu dans la profondeur, le jeu au pied long. Et en fait, moi, c'est mon sentiment, je pense qu'aussi, dans le premier quart d'heure, les maintenir dans leur 22 mètres, c'est peut-être une solution pour les contrer.
Oui, absolument. Et aussi, un bon équilibre entre le jeu au pied, les différents joueurs. Donc, utilise le deux pieds de Dupont, oui. Utilise Intermac, mais aussi utilise le jeu au pied plus large avec Ramos, etc. Parce que le problème pour certaines équipes, c'est qu'ils ont vraiment fixé sur un joueur qui fait 90% le jeu au pied, et ça, c'est facile pour Leinster. Donc, il faut que tu changes le rythme de match et aussi le joueur qui tape.
Et comme l'équipe de France a fait en fait à la suite du tournoi après l'Irlande, en faisant taper plusieurs personnes. Absolument. Julien, tu avais une question pour Bernard concernant le staff de cette équipe du Leinster.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'effectif, mais c'est vrai qu'il y a aussi un staff dont tu vas pouvoir nous parler, Bernard, parce que notamment Léo Cullen, tu le connais bien, tu étais son coéquipier, je crois que même que vous êtes affronté quand tu étais coach des Dragons. Voilà. Déjà, comment ils fonctionnent les deux avec donc Léo Cullen, le head coach, et Stuart Lancaster, le senior coach.
C'est très bizarre en Irlande cette relationship. En fait, c'est pour moi c'est vraiment proche que Fabien Galthié et Raphaël Ibanez. Donc Leo Cullen, il est plus le profil de Ibanez, manager, et c'est Stuart Lancaster qui est le chef de rugby,
le cerveau du jeu.
Oui, cerveau, exactement. C'est lui qui en fait, il fait attaque et défense. Il est vraiment le head coach. Et le boulot de travail de Leo Cullen, c'est le mec qui est devenu de Leinster. Donc, il comprend la province, il comprend les écoles, il comprend le club, il comprend la difficulté à ce job. Parce que, en fait, le job pour Cullen, c'est vraiment contrôle ou organise comment il va travailler sans les joueurs internationaux, comment il va intégrer les internationaux après les Six Nations, comment il va développer les jeunes joueurs qui vont être internationaux pendant l'avenir. Donc, Cullen, c'est un peu une vision long terme. Et Stuart Lancaster, son boulot, c'est gagner le match et gagner le titre. Donc, mais il est très bon entraîneur. Le joueur ici adore lui et ils sont très tristes que la saison prochaine, il va être avec Racing. Donc, on va manquer lui beaucoup. Mais on espère que il va finir avec deux titres peut-être au minimum un, et on espère que c'est la Champions Cup parce que comme j'ai dit cette équipe mérite une coupe d'Europe, mais le fait que tu mérites une coupe d'Europe ça marche pas, il faut que tu gagnes. Donc c'est un relationship intéressant, mais je crois que le caractère de Cullen c'est bien pour cette vision long terme, et Lancaster, c'est lui l'entraîneur.
Messieurs Denis, Léo, est-ce que vous êtes impressionné par un joueur dans l'effectif? On demandera à Bernard s'il y en a un clé. Moi, j'adore James Ryan, on n'en parle pas beaucoup, mais le deuxième ligne, c'est un monstre. Est-ce que Denis, est-ce que tu as un focus sur un joueur dans ce Leinster que tu aimes beaucoup?
L'ailier là où je trouve qu'il est, il est impressionnant de facilité. C'est un gabarit très, très physique et en même temps il est juste, quoi. Il est précis, il se trompe rarement, il a un jeu au pied extrêmement performant,
puissant
et long. Voilà, ce mec qui me surprend. Alors il est néo-zélandais à la base, il me semble, hein, c'est ça?
Oui, c'est vous
êtes. Mais bon, voilà, ce mec-là me plaît. Et l'arrière aussi, comment il s'appelle?
Le petit Kinnan.
Très fort.
Léo,
ouais, super fort. J'ai depuis très longtemps un petit fait pour Ringrose que je trouve absolument exceptionnel. Je l'avais découvert au Mondial moins de 20 en Nouvelle-Zélande. Il avait été dans les meilleurs joueurs du tournoi d'ailleurs. Je crois qu'il y avait Pollard, il y avait Itoje dans les meilleurs joueurs, donc ils ont pas mal réussi tous. Mais je trouve qu'il est de tout est propre. Il y a zéro déchet dans son jeu. C'est pas forcément le plus puissant des centres au monde. C'est pas Jonathan Danti. Il c'est pas forcément le joueur qui va le plus vite. Mais dans la qualité de ses choix, je vois aucun déchet. Après, il va vite quand même. C'est un très très bon défenseur techniquement. Mais je trouve surtout cette qualité dans tous ses choix. Tout est toujours juste. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Ouais.
Julien, je t'ai pas demandé, est-ce que toi t'étais à la Viva Stadium pour le Leinster Racing, il y a quelqu'un qui t'a impressionné? En tout cas, ils ont beaucoup impressionné le Racing, ça fait très très mal cette défaite au Racing, enfin c'est deux défaites
en fait, c'est ce qui a précipité la dégringolade du Racing, hein. Le match aller à Havre, là, la défaite 42-10, ouais. Derrière ils étaient deuxième du top 14, derrière ils ont dégringolé, donc ça leur a fait très mal. Et le match retour, c'était intéressant d'ailleurs, parce que finalement ils ont matché jusqu'à l'heure de jeu environ, et on avait vu l'équipe irlandaise être beaucoup sanctionnée, plus que d'habitude en tout cas, et souffrir sur les ballons portés. Moi j'ai ce souvenir.
Et après ils ont explosé
en vol, évidemment, comme tout le monde en fait, hein, en gros. Contre cette équipe. Mais sinon, en joueur low, je suis comme Richard.
Et Bernard, il a un joueur préféré?
Ouais, dans cet effectif.
Moi j'adore Ringrose aussi. Il va être le prochain capitaine de Leinster et Irlande après Sexton. Il est un grand leader dans le vestiaire. Mais moi, j'ai joué Talner et Dan Sheehan.
Dan Sheehan, il est énorme.
Vous avez Marchand, vous avez Movaca. Dan Sheehan, il est moins solide, moins massif, mais il a les appuis, il a la vitesse.
Il
est jeune. En fait, lui, il n'était pas sélectionné pour le Centre Formation de Leinster à 18 ans. Je ne sais pas, le mec était fou. Il a dit qu'il n'a pas la qualité. Et il a joué pour un club Lansdowne. C'est le club de Lansdowne Road de Viva. Et pendant 12 ans, il a vraiment progressé. Et maintenant, il est le premier choix pour Irlande et Leinster. Il est très, très fort.
Bernard, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'impressionne à Toulouse On soulignera les 5 passes décisives. Enfin, maintenant, c'est comme au foot. On comptabilise les passes décisives et les 5 passes décisives de Dupont. Bah, c'est 5. Alors, non, bah, c'est marrant en conférence de presse après. Je lui ai dit, Antoine, tu as fait 4 passes décisives. Il a fait la moue comme ça. Mais je pense qu'il y en a plus, il m'a dit. Donc, ça veut dire qu'il compte tout, ce mec. Il compte tout. Mais bon, la passe décisive à Ntamack, c'est vrai qu'elle est au début de l'action. C'est Ntamack qui se le pèle, mais c'est vrai que dans les stats, c'est une passe décisive. C'est juste pour le détail d'ailleurs, pour vous, dans le cerveau d'Antoine Dupont. Quoi. Vous lui dites 4 passes décisives. Non, c'est 5. Pardon.
C'est, voilà,
c'est un record
payé,
dans un match. C'est un record dans un match de Coupe d'Europe. Bernard, est-ce que tu. Voilà, il y a quelque chose qui t'impressionne à Toulouse?
Ah oui. Moi, j'ai un fan de Toulouse depuis 20 ans. Et je crois que cette génération, ils sont capables de faire la grande chose pour leur club. Et, quand le jeu est un peu désorgue, un peu dans le désorgue, dans le chaos, ouais. Ça c'est le moment de Toulouse à faire mieux. Donc, Lenser va être très, très conscient à fermer le jeu s'il y a un ballon en avant.
À la perte de balle.
Exactement, juste tuer le ballon, recommence avec... au mêlée, mais parce que si tu laisses Stade Toulousain jouer avec l'avantage, jouer debout, ce sera très difficile parce qu'il y a le facteur X partout et moi je suis très excité, c'est pas le même mot en irlandais, en anglais, mais...
Si, ça marche aussi chez nous.
Non,
chez toi, oui, c'est moi, c'est
oui,
pas pareil.
Okay. Excité pour ce match, je crois que ce sera un match de spectacle.
Juste avant de te libérer, Bernard, La Rochelle devra passer par l'obstacle Exeter en demi-finale. Oui. Mais par rapport à leurs qualités respectives, qui est le plus gros danger pour le Leinster, le plus difficile à jouer? Il y a des équipes qui ont du mal. La Rochelle a du mal à jouer Toulouse, a du mal à Bapa Toulouse. Toulouse a eu du mal contre le Leinster. Pour toi, qui est l'équipe la plus difficile à jouer pour le Leinster, Toulouse ou La Rochelle?
La Rochelle pour moi. La Rochelle pour moi parce qu'ils ont perdu 2 fois. Il y a le facteur de Ron Nogara qui est capable de construire un plan de jeu, ça marche contre Leinster. Il y a le fait que Bottia, il est un gratteur incroyable. Et il y a la qualité d'Aldrit, il y a Skelton, il y a Antonio, etc. Donc, aussi Dante. Donc, moi, j'aime plus le jeu de Stade Toulousain. Mais je crois que le jeu de Stade Rochelais est plus difficile à gérer pour Leinster.
Il est plus en maîtrise ou tu
penses? Exactement. Ouais, moi, plus fermé, plus difficile, peut-être un petit peu plus stratégique, et ça va donner beaucoup de difficultés à Leinster encore, je crois. Si ça c'est le final.
Si ça, c'est la finale, parce qu'il y a Exeter d'abord au Matmut à Bordeaux. On va te libérer, Bernard. Merci d'être passé voir d'entre les poteaux.
Merci,
rendez-vous donc le samedi 29 avril à Dublin, alors. Hein.
Oui,
on se voit là-bas.
Pour mon français. Tu étais trop gentil. Tu n'as pas dit que je t'ai viré par Grenoble, donc merci beaucoup pour ça.
C'est vrai, bon, pas préciser.
Quand je pars, tu peux parler de ça. Au revoir.
Ciao. Salut, Bernard.
Au revoir, les gars.
Salut, merci. Merci Bernard, c'était très sympa de l'avoir parce que c'est un fin connaisseur du Leinster. Les poteaux finissent juste sur cette Champions Cup, donc un mot sur La Rochelle. Ouais. Denis, La Rochelle, ils enchaînent leur 3e demi-finale. C'est important de s'installer à ce niveau durablement. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est pas dans le même style, la même identité que les Toulousains. On précise le record, hein. 14
victoires.
14 de suite,
victoires,
hein. Ils battent le record du Munster et des Saracens.
Ce qu'il faut relever et admirer, c'est leur fin qui est toujours. Ils ont toujours faim, quoi. Ils sont toujours. Dans cette envie de surpasser, de gagner, et donc la dynamique elle est extraordinaire. Je vois pas comment ils vont pas se qualifier pour la finale. Après, s'ils vont au Leinster, ça sera autre chose. Mais Toulouse peut gagner aussi au Leinster. Mais c'est vrai que moi je suis admiratif de cette performance quand même de ce club Rochelais, qui est quand même un club à part, quoi, qui fait partie de ces clubs qui se gèrent différemment que certains, quoi. Et Toulouse est dans le même cas de figure d'ailleurs.
C'est-à-dire?
Mais la gestion, c'est pas des mécènes, c'est des
oui, d'accord.
C'est, ouais. Voilà, donc c'est au forceps parce que c'est compliqué aussi pour eux. On ne faut pas croire que c'est facile à gérer.
C'est autosuffisant, c'est ce que tu veux dire en entrepreneuriat, enfin sponsoring. Mais
bravo quoi, chapeau à eux et de rester au même niveau comme ils le font les deux, c'est génial quoi. C'est génial pour le rugby.
Ouais. Léo, les Saracens, c'est plus peut-être qu'ils étaient, mais c'est jamais anodin quand même d'écarter une équipe comme ça. Ça fait un peu passation de pouvoir quand on voit ce match.
Ouais. Alors, je trouve que la passation, en fait, elle a été faite avant, dans le sens où sur ce match-là, La Rochelle était favorite. Donc en fait, dans nos têtes, on l'avait déjà faite la passation. Les Saracens, effectivement, sont quand même plutôt sur une pente descendante depuis leur relégation administrative. Ils sont revenus au plus haut niveau, mais ils sont plus aussi dominants qu'ils l'ont été. Et puis les Rochelais aujourd'hui, tu l'as dit, troisième demi-finale de suite. En fait, je trouve que le plus bel accomplissement, c'est ça. Être champion, c'est le grand. Et c'est l'objectif et c'est tout ce qu'on veut, mais pour positionner un club, c'est la répétition dans le haut niveau, et aujourd'hui ils y sont, et en plus c'est plus une surprise quoi, ils sont à leur place en demi-finale, les Rochelais, j'ai du mal à les voir perdre face à Exeter, je me trompe peut-être, je m'avance, ils vont quand même être archi favoris face à Exeter. Ça dit tout du chemin par que passe club et de tout ce qui a été fait, donc voilà, ils écartent les Saracens, c'est pas anodin, mais c'est logique aujourd'hui, non?
Oui, c'est dans la logique de leur qualité, de leur talent et de ce collectif qui est impressionnant et qui aujourd'hui est plein de maîtrise, un peu à l'image du Leinster. On peut comparer La Rochelle au Leinster. Hein, il y a pas un grand écart aujourd'hui. Hein. Au contraire, parce qu'ils ont battu l'année dernière, mais je veux dire, ils font preuve d'une maîtrise quand même aujourd'hui.
Ils sont à leur place aujourd'hui.
Ils sont à leur place et c'est un peu grâce aussi au travail d'O'Gara qui fait un travail formidable, Ronan O'Gara.
Ouais, c'est sûr.
Vous savez quoi, les potos, sur mes deux dernières questions, j'avais prévu de parler des franchises sud-africaines et des voyages. C'est marrant, ça.
Oui, c'est ça. Tu peux en parler.
Non, mais c'est les limites de l'organisation, un peu, messieurs. Faut faire voyager des mecs comme ça, deux jours, à trois jours d'un quart de finale, avec des escales. Comment on fait?
On essaye de trouver une solution parce que là c'est pas la bonne solution, ça c'est sûr. Donc on sait qu'on est pris par le calendrier, on est pris.
Parce que toi tu es pour l'arrivée des clubs sud-africains.
Ah oui, moi je trouve que c'est formidable. On l'a vu ce week-end. Après,
mais
les limites, c'est leur donner le même avantage que les autres. Aujourd'hui, on voit bien que les Sharks à la fin ils ont explosé et même les Stormers ont explosé. Donc c'est pas neutre. Il faut bien se poser la question. Et d'ailleurs Thomas Ramos nous l'a dit tout à l'heure. On est au Moscato Show. Il a révélé. Il a dit ils ont voyagé 24 heures dans des conditions en écho, c'est pas digne d'une Coupe d'Europe, enfin d'une Champions League comme on veut la voir.
Faut pas enchaîner huitième et quart.
Faut trouver une solution, mais pas.
Il y a un problème financier, c'est que si le schéma est inversé, que les Français vont là-bas jouer un match de phase finale. Ça peut arriver, mais on sait déjà que, parce que financièrement on est mieux armé qu'eux, je pense pas que le Stade Toulousain ou le Stade Rochelais auraient envoyé leur deuxième ligne voyager en classe éco quand même. Donc voilà, il y a aussi un équilibre à trouver là-dessus. Il faut qu'ils voyagent. S'il y a des voyages à faire, parce que du moment qu'on les a fait rentrer, il y a des voyages, c'est loin. Il faut au moins qu'ils voyagent dans des conditions dignes de sportif.
Oui, après, il y a un bémol, c'est-à-dire que si tu le sais trop tard, tu ne peux pas réserver tes places en business. C'est un problème d'organisation et de. Toutes les compagnies d'ailleurs. Tu peux pas. Moi, je l'ai vécu avec les Barbarians français à Houston et j'avais qu'une semaine pour donner des noms. Eh bien, la moitié ou les trois quarts des joueurs ont voyagé en éco. Je trouve pas ça anormal parce que nous, on avait l'argent pour les faire voyager en business, mais le problème, il n'y a pas de business. Donc, si tu veux, ils ont.
L'agence de voyage Julien Richard, quelque chose à dire là-dessus.
Non, mais c'est ça, Julien.
Non, mais c'est sûr qu'avec les gabarits, aux gens.
Les gabarits, on a vu des images, Julien, en plus, sur les réseaux sociaux. On a vu des deuxièmes lignes, là, revenir avec les gens.
Moi, je peux vous dire que moi, j'avais Arthur Joly chez moi, qui est le pilier de Perpignan. Il ne peut pas rentrer dans une.
Après, ils le font déjà en United Rugby Championship.
Ce qui n'est pas bien non plus.
Il commence à avoir, entre guillemets, l'habitude.
Même s'ils font des tournées en URCA, il reste plusieurs semaines.
Voilà, mais c'est peut-être. C'est difficile.
Ou peut-être les faire jouer, même s'ils ne seront pas chez eux. Les faire jouer en Europe. Mais bon, pour leurs supporters, tout ça, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. On verra comment ça se passe la saison prochaine. Donc, rendez-vous avril pour ces magnifiques demi-finales. Au mois d'avril, week-end prochain, ce sera à nouveau le top 14 et Entre les poteaux sera là, évidemment. Merci, messieurs, pour ce podcast. Merci à vous.
Ben, merci à la semaine prochaine.
Grand plaisir. Merci Léo. À télécharger, comme on dit, hein, sur toutes les plateformes, hein, Apple, Deezer. Abonnez-vous pour jamais nous louper. N'hésitez pas à nous faire passer des petits messages sur les réseaux sociaux. Julien, nous vous direz voir. Il y a des gens qui nous passent ça quand ils font du sport. Comme l'a fait Laura, et on lui fait coucou maintenant à chaque fois, il n'y a pas si longtemps. Elle nous a mis des photos. Accélère d'ailleurs, Laura, si tu es en train de courir là, quand tu nous écoutes. Là. Je trouve que tu vas passer vite.
Allez, mets du gaz, Laura.
Ouais, mets du gaz, comme on dit dans le sud-ouest, cher Adonis. Merci à Roxane Lacusca qui était à la production. Merci à Kevin Pogam à la réalisation. On vous embrasse et merci de nous être fidèles. Et puis à la semaine prochaine. Salut!